Marc Mangin, bonjour.
Bonsoir.
Donc ici, on est voyageurs du monde, à l'étage où il y a souvent de très belles expositions et souvent thématisées dans des endroits du monde, on va dire. Hein. Aujourd'hui, on visite la Chine, pas la Chine d'aujourd'hui, la Chine d'il y a déjà un petit moment. Quelle est l'époque de vos photos ?
Alors, les photos qui sont présentées ici, en fait, ne sont pas si vieilles que ça. Ce sont des photos, la plus ancienne doit dater de 1998 et la plus récente de 2006. Donc, c'est la Chine du tournant du siècle.
Effectivement, donc c'était le début d'une grande évolution. Forcément, ça change beaucoup. Est-ce que le choix du noir et blanc, ça donne aussi une impression d'image plus ancienne que la réalité que vous avez photographiée ?
En fait, je ne suis pas sûr que ça donne une image plus ancienne. Je pense que ça laisse percevoir à celui qui regarde la Chine qu'il a envie de voir. Celui qui veut voir une Chine ancienne va voir une Chine ancienne. Celui qui veut mettre de la couleur et voir une Chine moderne va voir une Chine moderne. Mais je ne pense pas que le noir et blanc travestisse. Je crois qu'au contraire, il neutralise. Il neutralise et alors là, il n'y a pas énormément de photos sociales. Il y en a quand même quelques-unes. On ne tombe pas dans le misérabilisme, par exemple. On ne tombe pas dans l'exotisme. Il n'y a pas la tentation de saturer les couleurs. Il n'y a pas la tentation de... Il n'y a pas de misère dans ces photos, même si on voit bien sur certaines images que ça ne respire pas non plus la richesse. Mais ce n'est pas ce que l'on regarde. Avec le noir et blanc, on est beaucoup plus dans l'information, dans le message de la photographie. Et j'espère, en ce qui concerne mes images, dans l'émotion que moi j'ai ressentie en les prenant et que j'essaye de transmettre en les montrant.
Donc dans la plupart des photos, on voit des personnes, pas des personnages, des gens de la vie normale, on va dire.
Oui, oui, oui. Moi, je me balade. Je suis un vagabondeur. Et donc, j'essaye de m'immerger dans un univers qui n'est pas le mien, sachant que cette immersion est par principe limitée. Je ne suis pas chinois, je ne parle pas chinois, et je ne suis pas perçu comme quelqu'un de la famille. Alors, j'essaye d'être un invité que l'on a envie d'accueillir et avec qui on a envie de jouer à travers un appareil photographique.
Donc l'époque à laquelle vous y êtes allé, vous avez dit à peu près les années 2000, on va dire les années 2000 pour résumer, est-ce que vous avez été bien accueilli et est-ce que c'était facile pour vous de faire des photographies ?
Alors l'accueil, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je n'ai pas dormi chez l'habitant. Je n'ai pas eu le sentiment d'être rejeté, ça c'est une chose. Je n'ai pas eu le sentiment de déranger. J'ai eu le sentiment d'être accepté comme un voyageur de passage et j'ai eu l'impression très vite confirmée par les faits qu'en Chine, les Chinois voyagent énormément. Donc ils sont habitués à voir des hommes et des femmes qui ne parlent pas leur langue, parce que le chinois est une langue écrite, ce n'est pas une langue parlée. Donc même entre eux, ils ont parfois des difficultés à se comprendre. C'est pour ça qu'ils utilisent des dessins, beaucoup, ou les cartes de visite, parce que c'est l'écriture, le chinois écrit, c'est comme ça qu'ils arrivent à communiquer. Donc un étranger de plus, un étranger de moins, ça ne les dérange absolument pas. Et en revanche, comme ils ont l'habitude de croiser des voyageurs, ils sont rompus aux techniques de communication avec des voyageurs. Donc on arrive toujours à se comprendre lorsqu'on voyage en Chine, puisque les Chinois se disent « bon ben voilà, lui, de quoi a-t-il besoin ? De manger, de boire et de dormir. C'est la base. » Et donc on va très vite s'entendre. Voilà, donc j'ai pas eu de problème là-dessus. J'ai eu aucun problème pour prendre des photographies, nulle part. Avec personne, je veux dire personne, d'abord les personnes que j'ai prises, que j'ai photographiées, mais j'ai jamais eu de la police sur le dos ou des services quelconques. Je me sens beaucoup plus, je ne vais pas dire en sécurité parce que ce n'est pas le terme, mais en liberté en Chine qu'en France.
La première année où vous êtes allé en Chine, vous ne pouviez pas payer en monnaie locale ?
Non. Dans les années 90, je crois que c'était quasiment peut-être même 98, c'était la limite. Oui, au début des années, la première moitié des années 90, les étrangers avaient des billets de Monopoly, donc du papier vraiment, du papier qui valait rien du tout, et qui permettait, il y avait une économie avec les étrangers, une économie avec les locaux, et ces deux économies ne pouvaient pas se rencontrer. Donc c'est un système qui mettait à distance le voyageur des populations locales.
Et donc, au fil de vos voyages, vous avez vu cette évolution, je pense.
Les choses, pour moi, ont beaucoup changé à partir de 1998. Je crois que c'est l'année où Dzurunji est devenu Premier ministre. Jusque-là, on avait Li Peng. C'était le coup de frein à l'ouverture qui avait laissé croire à la jeunesse que l'heure de la démocratie avait sonné, de la démocratie à l'occidentale. Et donc, le début des années 90, c'était quand même une Chine assez austère. Et les amis chinois que j'avais ne m'invitaient pas chez eux. À partir de 1998, l'arrivée de Zhu a fait que les choses se sont calmées. J'ai pu rentrer chez les amis chinois. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voyager en Chine. Et sans aucune... Il n'y avait plus aucun guichet particulier pour les étrangers. Il y avait la possibilité de se déplacer, à partir de 98, la possibilité de se déplacer comme on le voulait. Et donc, moi, c'était l'époque où... c'était la grande période de ma carrière professionnelle de journaliste. Donc, je suivais de très, très près l'actualité économique chinoise. Et c'est vrai qu'il y a eu, à partir de 98, il y a eu un boom d'ailleurs qui a failli très vite, très tôt déraper, qui a été repris en main. Je pense qu'on n'en a pas vraiment conscience. On n'a pas ici vraiment conscience de l'effort et de la conscience que les dirigeants chinois ont de la réalité économique et écologique de leur pays. Bien sûr qu'il y a aussi une réalité politique qui est discutable et discutée, mais il ne faut pas sous-estimer l'acuité de la réflexion des Chinois.
Alors, les premières années où je suis allé en Chine, j'étais très surpris et je me suis posé la question de la place des journalistes occidentaux dans la traduction de la réalité qu'ils voyaient de là-bas. J'avais l'impression d'un vrai décalage. Quand on arrive là-bas, on s'imagine avoir la police dans le dos, etc. J'ai ressenti une vraie liberté, bizarrement. Pourquoi on peut imaginer qu'on est plus libre, c'est une impression bien sûr, plus libre en Chine en arrivant sur le sol? Moi je suis arrivé par Canton, qui était encore un endroit plus fou que Pékin à l'époque, donc il y a 12 ans. Et j'ai eu une impression assez étonnante de nouvelles choses possibles, notamment en photographie.
Alors, je pense que là il faut peut-être se replonger dans la nature et la structure du régime chinois. C'est-à-dire que c'est un régime autocratique, c'est clair, personne ne conteste. C'est un régime de droit divin. Donc l'empereur de Chine, c'était le fils de Dieu sur Terre, enfin le fils du ciel. Et c'est pas Dieu, le ciel, donc le fils du ciel. Et contrairement à nos fantasmes, les régimes qui se suivent se ressemblent. La France de 2017 est tout aussi monarchiste que la France du XVIe siècle. La Russie est tout aussi tsariste sous Poutine qu'elle l'était au XIXe siècle. La Chine est tout aussi impériale aujourd'hui qu'elle l'était au XIXe siècle. Donc, dans ce système-là, et compte tenu aussi peut-être et probablement de la taille de la Chine, il y a pour le régime une nécessité de contrôler qui est complètement différente qu'un État comme Singapour, qui n'est pas plus grand qu'une ville. Donc il y a un autoritarisme qui accompagne ce régime et le souci de contrôler l'information. Donc à partir du moment où on se déclare comme journaliste, et donc dont la fonction première, c'est de transmettre de l'information, évidemment qu'on est là sur une matière sensible que l'autorité, le régime ne va pas laisser filtrer sans son aval. Et c'est ce qui fait la différence entre le touriste qui vient faire ses petites photos sans aucune intention ou sans aucun projet de diffusion de masse et le journaliste qui va dans un temps réduit sur un sujet télé ou sur un reportage écrit de quelques pages donner une image, restituer une image. Et le régime veut contrôler cette image. Il a de tout temps voulu contrôler cette image. C'est ce qui fait que lorsque l'on se déclare journaliste, eh bien, il faut connaître cette règle et savoir qu'on va être contrôlé. Celui qui n'est pas journaliste ne sera pas contrôlé. Maintenant, si le journaliste se dissimule en touriste et qu'il se retrouve là où il ne devrait pas être, et c'est-à-dire là où on pourrait le considérer comme un journaliste, il s'expose à de graves problèmes.
Donc actuellement, est-ce que l'image qui est renvoyée par les médias occidentaux est plus conforme à la réalité de la Chine qu'à cette époque ?
Dans la mesure où les journalistes qui sont en poste sont conditionnés, l'image qu'ils restituent de la Chine est une image partielle. Et de toute façon, un journaliste va restituer une image partielle. Le journaliste qui va vous parler de la France, il va vous restituer une image partielle. C'est son monde, c'est sa façon de voir le monde à travers son prisme. Moi, j'ai rarement croisé des journalistes dans les dortoirs. Moi, quand je voyage, je suis dans les dortoirs. Je voyage en bus, dans des bus pourris, où des fois je me retrouve avec des mecs sur les genoux. Bon, on les voit pas souvent, rarement, quasiment jamais. Ils sont dans un autre monde, ils sont dans une autre sphère. Que ce soit en Chine ou ailleurs, j'ai été journaliste basé à Manille. Il est clair que le petit monde des expatriés n'a pas conscience de la réalité quotidienne du pays dans lequel ils vivent. Ils en ont des échos par les médias locaux, mais ils n'ont pas, ou très rarement, un contact direct. Donc l'image qu'ils en restituent, elle est nécessairement biaisée par le prisme de leur propre expérience et de leur propre vie. Et il ne faut pas oublier que les médias, notamment français, et je pense que ça c'est une erreur, vont privilégier des envoyés spéciaux aux journalistes de terrain qui sont souvent des pigistes sous-payés, qui sont là en permanence et qui n'ont plus, on leur reproche, de distance. C'est-à-dire qu'eux pourraient avoir une vision immergée, donc avoir une analyse plus pertinente. Mais on va privilégier, combien de fois, moi aux Philippines, on m'a envoyé des équipes. Donc oui, mais voilà, le gars qui débarque de Paris, il c'est tout neuf, il va voir tout de suite ce qui cloche, il va voir la réalité. D'accord, mais pourquoi cette réalité ? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Et le problème, pour moi, des médias français, c'est l'absence d'analyse. Et c'est bien ce qui fait leur perte aujourd'hui. Quand on les compare avec la presse anglo-saxonne, par exemple, et pour ceux qui lisent le japonais ou le chinois, avec la presse japonaise ou des presses d'Extrême-Orient, il y a cette absence d'analyse dont on nous dit depuis 20 ans. C'est pas ça que veut le lecteur. C'est pas ça que veut le lecteur. Et on a des patrons de presse qui savent parfaitement ce que veut le lecteur, mais le lecteur, il n'achète pas le produit qu'ils nous vendent. Et on voit bien, quand on regarde l'évolution de la presse, que finalement, faute de cette analyse, dans les années 80 déjà, on a fait le lit des lettres d'information qui se sont engouffrées dans les niches d'analyse, d'informations pointues que la presse refusait. Et puis, on a bien vu après que c'était tellement pointu qu'il manquait le recul, de l'analyse, etc. Et donc, on a vu rebondir les revues. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est l'édition qui récupère tous ces journalistes d'investigation et qui font... Alors, dans un cadre industriel, c'est-à-dire qu'on fait du bouquin jetable, mais on va faire 300 pages sur un sujet d'actualité. Ça va vivre 3 mois. Mais c'est un travail qui à l'origine faisait la presse. Moi, je me souviens, dans les années 70, Le Monde qui publiait des reportages d'une pleine page, voire d'une page et demie, sur 4 jours, voire 5 jours. On avait tout un feuilleton sur une semaine où, là, on allait creuser un sujet jusqu'à l'os. Aujourd'hui, si on regarde la taille moyenne des papiers du Monde, il a été divisé par 3 ou 4. Enfin, là, je n'ai pas vérifié, mais il a été considérablement réduit. Et je me souviens du temps qu'il fallait pour lire Le Monde dans les années 70, pour lire une édition du Monde de la première à la dernière ligne, il fallait plus de 8 heures. Aujourd'hui, on a torché le journal en 4 heures.
Donc la photographie est une sorte de média également. Hein. Qu'est-ce qui transparaît ? Enfin, je ne vais pas décrire, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous voulez faire transparaître de vos photographies ?
L'émotion. L'émotion que moi j'ai ressentie, le plaisir, le plaisir que j'ai eu à être là, face à ces gens, qui me regardent ou qui ne me regardent pas. Mais voilà, je ne veux pas dire un instant de plénitude, c'est un instant de plaisir, d'être posé dans un cadre et se dire, tiens, qu'est-ce qui va bouger dans ce cadre, qu'est-ce qui va vivre, qu'est-ce que l'on va m'offrir dans ce cadre que je vais pouvoir moi-même offrir, c'est-à-dire transmettre. C'est ça le média, c'est la transmission d'une information, et l'information ça peut être simplement l'émotion. Puis voilà, ben celui qui se retrouve devant la photo, qu'il rêve.
Alors, la Chine, c'est tellement immense qu'on peut se demander, un photographe qui va pour faire un reportage photographique, par quel bout il prend les choses, comment il organise son voyage, son itinéraire ?
Alors, moi, j'organise très peu. J'ai un billet aller, un billet éventuellement retour. Et partant de là, ça va être en fonction de mon feeling. Bon, alors, il y a certains lieux que j'ai envie de voir. Il y en a d'autres que j'ai pas envie de voir. Du coup, je fais des détours, des crochets, je m'arrête. J'essaye, en tout cas, quand j'ai pris la décision de m'arrêter quelque part, d'y rester plusieurs jours. Souvent, le touriste classique va choisir une destination dans laquelle il va rester une semaine avec un programme, etc. Et c'est généralement des destinations qui sont choisies en fonction de leur intérêt historique, culturel, etc. Moi, c'est plutôt des étapes. Bon, je ne veux pas faire 10 heures de bus, donc je fais des étapes de 3 à 4 heures de bus, ce qui fait que je débarque dans des endroits où je croise peu de touristes. Tout bêtement parce que ce ne sont pas, à la base, des lieux touristiques. Alors, souvent, au bout de quelques heures, on peut se dire « qu'est-ce que je fais là ?» Et puis, il y a des gens qui vivent là. Donc, s'il y a des gens qui vivent là, c'est que c'est vivable. Alors, essayons de regarder un petit peu. Et donc, c'est là où je me pose et puis, je regarde. Alors, c'est très simple, hein, il faut aller au marché. Ça, c'est la première chose. Donc, après avoir trouvé une piôle, aller au marché et puis repérer les lieux pour manger. Ça, pour moi, c'est très important. De bien choisir le lieu parce que c'est le lieu dans lequel je vais retourner. Et là, c'est là que les choses se passent. C'est là où on voit la réalité. C'est-à-dire que quand je débarque dans un restaurant la première fois, je suis servi avec un lance-pierre. Généralement, on rogne un peu sur la portion, sans égard, sans rien. Bon, OK. Si je reviens le lendemain, le gars va dire, tiens, lui, j'ai déjà vu. Donc, s'il est venu la première fois, c'était peut-être un hasard, mais s'il revient deux fois... c'est plus un hasard. Donc là, je suis servi normalement. Si je reviens une troisième fois, le mec, il dit oh, « Putain, il a vraiment aimé ma bouffe ». Et alors là, je suis accueilli avec le sourire. J'ai une portion beaucoup plus consistante que les fois précédentes. Et puis, la vie bat son plein dans le troquet ou dans la gargote. Et tout le monde rigole. Et puis, éventuellement, je fais une photo.
Est-ce qu'il vous est arrivé de revenir les années d'après dans les mêmes lieux et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors, en Chine, non, parce que la Chine, c'est vraiment grand. Donc là, ça ne m'est pas vraiment arrivé, sauf à Pékin, mais bon, Pékin et Shanghai. Mais non, dans les petites villes, c'est pas ça qui m'est. C'est pas en Chine que ça m'est arrivé. Non.
Donc, si vous aviez, au-delà de la Chine, un voyage à préparer, et je pense que vous avez déjà une idée, vous iriez où ?
Quand maintenant, là ? Ah ben maintenant, je pars bien sûr en Chine, et je vais en fait m'intéresser au Mékong. C'est-à-dire que c'est un des plus longs fleuves qui descendent de l'Himalaya. Il y a 6 grands fleuves qui descendent de l'Himalaya, et le Mékong est l'un d'entre eux, un des plus longs, qui traverse 5 pays. Donc la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, ça doit même faire 6. Et comme tous les fleuves de l'Himalaya, c'est un fleuve qui est menacé par la fonte des glaciers de l'Himalaya. Et donc voilà, je m'intéresse à cette question environnementale depuis très longtemps. Donc je me suis fixé l'objectif d'aller déjà à la source du Mékong. Donc je pars...
Quelle altitude ?
C'est 4864 mètres, je crois, et très précisément. Enfin, une des sources du Mékong. Je vais à la source, à ce que les Tibétains considèrent être la source, puisque il y a cette source-là. Et puis en 1989 ou 94 peut-être, en tout cas très récemment, le Français Michel Pessel a découvert une autre source qu'il considère être la vraie source du Mékong. Et bien sûr, les Chinois ne pouvant pas rester en reste, ont décrété qu'il y avait encore une autre source du Mékong. Donc aujourd'hui, il y a 3 sources officielles du Mékong. Moi, je vais à celle qui est la moins haute, 4009, on va dire, pour arrondir. Et puis de là, je vais retrouver en plusieurs endroits le fleuve et voir comment la vie s'organise autour du fleuve.
Ben bon voyage, Marc Sanger.
Merci beaucoup.